Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous chopperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Qu'est-ce qui fait qu'une histoire d'amour est digne d'être dans Aix? Il faut une histoire qui a du panache, une histoire avec des obstacles, la rencontre de deux êtres qui doivent se battre parfois pour faire exister leur amour, une histoire qui subsiste contre vents et marées, contre les clichés, contre l'entourage aussi quelquefois. Et si je vous disais que l'histoire de Yasmine, c'est tout ça à la fois? On est obligé de vous prévenir, notre micro nous a lâché en plein milieu du podcast. Donc d'avance, désolé pour le son qui est un petit peu moins bon, mais ça va quand même. Voilà, mes mille excuses d'avance.
On est en 2009, j'ai donc 28 ans, célibataire, jamais très longtemps, parce que je cherche l'amour, je cherche vraiment l'homme de ma vie. Je désespère de trouver quelqu'un qui puisse me convenir. À ce moment de ma vie, ouais, j'ai des critères qui sont quand même assez importants. Enfin, à l'époque, j'ai 28 ans, il faut pas qu'il ait plus de 33 ans, parce que j'estimais que 33 ans, déjà, c'était suffisant. Donc ça faisait quoi? Ça faisait 5 ans d'écart. J'avais envie d'être avec quelqu'un qui avait le même âge que moi, qui avait les mêmes goûts que moi, c'est-à-dire qu'il aime le rap comme moi, qu'il ait un 4x4, parce que j'adore ce genre de voiture, qu'il soit dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi en banlieue et j'ai tout fait pour m'élever, pour en sortir, pour avoir une belle vie. En fait, j'ai rêvé d'avoir une belle vie, donc j'ai tout fait pour en avoir une qui me convienne. Et donc, j'avais envie d'être avec quelqu'un qui ait de l'ambition, qui soit comme moi, qu'on se porte l'un l'autre, qu'on soit des gagnants, quoi. Voilà. Donc, c'était un peu mon idéal, c'était de trouver un mec comme ça. Je cherche pas un petit copain, je cherche un mari. Voilà, je veux quelqu'un qui soit prêt à s'engager, à m'épouser, voilà, avec une jolie cérémonie, une jolie robe, une jolie bague, tout ce qui va avec. Mais c'est un rêve, ouais, peut-être un rêve de petite fille, un rêve de princesse, quoi, en fait. Moi, je suis pas là pour m'amuser, je suis là pour m'engager. Donc, je cherche vraiment quelqu'un dont je vais tomber folle amoureuse. Alors, ça marche assez régulièrement, c'est-à-dire que je m'enflamme, quoi. Je peux tomber sur quelqu'un, le trouver extraordinaire et le soufflet retombe très vite parce que, je sais pas, parce qu'il aura pas tel ou tel critère, on va dire. En tout cas, ça ne marchait jamais. Alors, en 2009, je travaille chez TF1 puisque j'ai commencé par travailler dans la musique où j'étais attachée de presse chez Universal pendant longtemps et puis je suis partie poursuivre mon patron chez TF1. À ce moment-là, je suis l'assistante d'Angela, qui est donc une patronne, quelqu'un de très respecté dans le milieu de la télé, parce que c'est un personnage et qu'elle a amené la télé-réalité telle qu'on la connaît en France. Je suis passionnée parce que je suis quelqu'un de passionné, que elle est passionnante. Et on travaille comme ça avec une équipe un peu déjantée dans ce milieu de la télé. Mais cette année-là, en 2009, en fait, je passe un casting parce que du coup, je quand même travaille chez TF1, dans les locaux de TF1, où il y a plusieurs unités. Il y a la télé-réalité pour laquelle je travaille, et puis il y a les magazines juste à côté. Il faut imaginer un voisin de bureau qui organise un casting de repérage des talents, en fait, du câble à l'époque, puisque la TNT, tout ça, toutes ces chaînes n'existaient pas. Et donc, je passe ce casting et je réussis ce casting. Je suis prise par TF6, qui est une chaîne du groupe, pour animer deux primes. Une fois que j'ai passé ce casting, il faut que je répète des textes, que je les enregistre, etc. Donc, j'ai une productrice qui s'appelle Cécile, qui me fait bosser. La veille du tournage de cette première émission, Cécile, avec qui je travaille, je suis dans son bureau, puis on va repartir, et elle me dit « Ah bah tiens, on passe devant, je vais te présenter mon patron Jacques. » Ok, donc on rentre dans son bureau, il y a donc Jacques qui est là. Et Jacques, je te présente Yasmine, tu sais, elle va animer les deux prochains primes là. Ah ouais, ouais, tout. Alors, en fait, le mec lève la tête de son bureau, donc c'est vrai que son bureau, c'est des papiers partout. Déjà, je sais plus, je le regarde lui, je regarde le bureau qui est en bordel et tout, puis il lève la tête, « Ah, c'est toi !» Et en fait, il a rien à me dire, et il me dit juste « C'est quoi, c'est tes textes ?» Effectivement, je tenais mes textes que j'apprenais depuis une semaine dans la main. « Bah vas-y, donne-les-moi » Et là, il prend mes textes et il raille comme ça. Voilà, salut. Et là, je repars avec mes textes, donc barré, tout ça. Ce mec, ça a duré 30 secondes, j'ai senti aucun intérêt de sa part pour ma personne. Je suis décontenancée, quoi. Ça m'arrive pas souvent d'être décontenancée. Ni par un homme, ni par une femme d'ailleurs, mais encore moins par un homme. Et en fait, ce Jacques vient sur le tournage de cette émission au moment, je pense, le plus débile qui soit. Je suis en train d'enregistrer des bandes annonces pour les fêtes de fin d'année, à dire « Joyeux Noël sur TF6, bonne année sur TF6 ». Et en fait, au moment où je le fais, je me trouve déjà débile. Décidément, lui, il va me prendre pour une potiche. Donc, mais bon, c'est pas grave, encore une fois, je continue ma vie. Jacques, c'est un homme, c'est pas un jeune homme. Pour moi, c'est un homme, il est plus âgé que moi. Clairement, il a plus de 33 ans, hein, voilà, ça c'est sûr. Et ouais, il est pas du tout hip-hop, hein, dans le style, hein. Il a un col roulé noir, manteau en laine noire, jean noir, boots noirs, tout en noir, quoi. Très sobre, en fait, le gars, et surtout pas expansif, quoi, hein. Je continue mon travail, j'ai mon petit copain, et puis au final ça se termine, puis après, voilà, c'est un drame, tout ça, mais c'est pas grave. Je recroise Jacques plusieurs fois chez TF1, mais à chaque fois que je le croise, il est pressé. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, je sens qu'en fait il n'a pas d'intérêt. Mais c'est une fois à chaque fois de plus où je me dis, c'est marrant ce mec-là, vraiment il s'en fout de moi, quoi. Et un jour, c'est assez dingue parce qu'on est amis sur Facebook, en fait. À ce moment-là, Instagram n'existe pas, TikTok encore moins. Et donc, ce Facebook, j'y passe beaucoup de temps dans ma journée. Je note tout ce que je fais et tout, avec des statuts. Et ce jour-là, je mets, parce que j'ai vu un reportage, en fait, dans 50 Minutes Inside sur un Egg Center à Los Angeles. C'est des femmes qui vont congeler leurs ovocytes là-bas. À l'époque, c'est très nouveau. On est en 2009. Quand je regarde ça, j'hallucine parce que moi, je me dis de toute façon, là, tel que c'est parti, ça va pas aller puisque j'ai pas de mec, je vais pas trouver. Je pense que je vais aller congeler mes ovocytes. Donc, je mets un statut sur Facebook tellement désespéré. Oui, Yasmine est célibataire depuis un mois. Je crois que c'est une catastrophe. Je vais aller faire congeler mes... Enfin, voilà, ce genre de statut. Et puis, je vais déjeuner avec mes copains à la cafette et tout. Et je leur dis que je suis dégoûtée, que de toute façon, j'en ai marre, que je vais jamais trouver, que je vais aller congeler mes ovocytes et tout ça. Et ils me disent, attends, ça va, quoi. Je veux dire, il y a un moment, t'es pas à plaindre, tu regardes là chez TF1, tu te retournes. Je pense, lui, tu peux, si t'as envie, tu peux l'avoir. Si t'as envie, tu peux l'avoir, là. Et moi, je dis spontanément, je sais pas pourquoi, Jacques, je pense que même si je voulais, je pourrais pas. Et là, ils arrêtent de manger et ils me regardent et ils me disent « Mais pourquoi tu nous parles de ce mec-là ? Quel rapport, en fait, ce Jacques et toi ? On s'en fout, quoi. On s'en fout qu'il te veuille ou pas. » Je dis « Ben, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'à mon avis, tu vois, lui, non. » Je remonte au bureau et là, je vois « Jacques a commenté votre statut. » Donc là, j'hallucine. Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» J'appelle mes potes. Je dis « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous l'avez appelé ? Vous lui avez parlé ? Mais pas du tout !» Bon, bref, je regarde ce qu'il a commenté. et il a commenté « C'est marrant, j'aurais pourtant cru que ça se bousculerait au portillon. » Là, moi, je lis ça, je me dis « Mais c'est une blague !» Et je réponds du tac au tac « Encore faut-il que ce soit celui que tu veux qui se bouscule, qui se bouscule. » Je lui envoie un message, je lui envoie un message en lui disant « Bon, écoute, je sais pas, on entame la discussion. » Et au début, c'est comme ça, sur ce ton un petit peu en rigolant. Et puis très vite, je lui dis « Bon, alors voilà, en fait, je t'explique. J'ai l'air peut-être un peu légère comme ça, mais en fait, moi, je cherche une relation sérieuse, etc. Et voilà, si on poursuit cette discussion, c'est à prendre en compte, quoi. » Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est quand même que à cette époque-là, donc je sais qu'on travaille pas très loin, hein, donc je sais qui il est. Je sais que ce mec-là, en fait, donc, il a évidemment donc plus de 33 ans. Et surtout, en fait, il est séparé d'une femme avec qui il a eu 4 enfants. Et je le sais, ça. Quand j'avais entendu cette histoire, je m'étais dit « Ah ouais, putain, chaud quand même de séparer 4 enfants. 4 enfants dont 2 jumeaux qui ont 1 an et demi. » Ouais, tu te dis « Ah ouais, l'histoire, elle est incroyable, quoi. » Et quand je lui parle en message privé sur Facebook, je sais ça. Je sais qu'il a ces 4 enfants-là. Mais je sais pas pourquoi, c'est pas du tout à ça que je pense en fait. On est en train de parler, on s'envoie des messages bien écrits, j'attends qu'il me réponde, le petit truc, ouais c'est excitant quoi. Il est brillant, de toute façon ça se voit, et puis surtout c'est un mec qui parle utile en fait. Et même quand il écrit, c'est un peu drôle, mais c'est profond quand même. Donc c'est drôle d'ailleurs parce qu'il me parle d'un livre. Et il cite un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « La délicatesse » de David Fuenkinous. Et donc, je vais sur Google, je tape la citation, et du coup, je vois que c'est tel livre. Donc, je réponds « Mais bien sûr, David Fuenkinous et tout, je l'ai jamais lu, mais je fais genre et tout. Ah, tu l'as lu? Ouais !» et tout. Bref, et donc ça part comme ça. C'est très très fluide jusqu'au moment où il me propose d'aller boire un verre. Je suis charmée. En fait, je sais pas par quoi, mais je suis charmée et j'ai envie d'aller boire un verre avec lui. Après, je lui dis bien que voilà, qu'on va boire un verre ensemble, mais que c'est pas le cliché de l'animatrice qui va aller boire un verre avec un producteur. Pas du tout, quoi. Hein. Et je lui dis même, d'ailleurs, moi, je te préviens, si je rentre dans ta vie, c'est une tornade qui va arriver. Ça veut dire, c'est pas léger, quoi. C'est vivre une aventure extraordinaire, etc. Et c'est pas... voilà, on sait pas si on se revoit le lendemain ou pas, quoi. Ça, avec moi, ça n'existe pas. C'est pas du tout mon type d'homme physiquement. Mon type d'homme, c'est David Beckham croisé avec Brad Pitt. Donc bon, mais avec l'humour de Jamel et la carrière de Jay-Z. Moi, je suis Beyoncé et je suis Beyoncé de toute façon, ça c'est sûr dans ma tête. Et je cherche Jay-Z, David Beckham, Jamel, Brad Pitt quoi. Voilà. Donc il n'est pas ni Jay-Z, ni Brad Pitt, ni David, ni même Jamel. Il est Jacques et il est très brun, avec des cheveux frisés, un type méditerranéen. Et c'est un homme mûr pour moi à ce moment-là. Et puis du coup, il me propose d'aller dîner. Donc on va dîner. Et super endroit. Donc ça déjà, je me dis « Ah bien, ouais, bel endroit et tout sympa ». Et donc ça se passe toujours bien, hyper fluide et tout ça. Et à un moment, il m'offre en fait un livre et il m'offre la délicatesse. Et je trouve ça tellement délicat, tellement classe, que là, je l'embrasse. Le premier baiser magnifique, avec de la fougue, avec tout ce que tu veux. L'histoire est fluide, quoi. L'histoire est fluide comme jamais. C'est-à-dire que habituellement, quand il y avait un premier rendez-vous, un deuxième, j'étais toujours dans l'attente. De, il va m'envoyer un message, pas de message, est-ce qu'on va se voir, est-ce que... Là, il n'y a pas de mystère, en fait. Il termine son travail, ben on se voit. Ce qui est très clair aussi, c'est il a ses enfants, on ne se voit pas. Mais c'est tout. Au début, en fait, on se voit, on va dîner, on se fait des restos, tout ça. Et je crois que c'est vraiment dans les premières fois qu'on se voit, où on se donne rendez-vous dans un resto, d'ailleurs, qui est à côté de chez moi. Pareil, super resto, je me dis chouette et tout. Et on sort du resto, il avait laissé sa voiture au voiturier, et il récupère sa voiture. Et là, c'est waouh. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout sur un 4x4. Là, on est sur une voiture familiale. Et là, je les vois bien, là, les quatre gosses, quoi. Parce que t'as 2 sièges auto, donc 4 sièges enfants, hein, 2 sièges auto. Les compotes vides par terre, les gâteaux écrasés, les sacs, les doudous, les machins. Et je m'assois et je me dis, bon, là quand même, on est assez loin de mes critères du 4x4 et tout. Bon, c'est pas grave, genre je décide de fermer les yeux et tout ça. Et il allume le contact. Et là, il y a un CD dans la voiture. Et là, c'est Véronique Sanson. Je me dis non, c'est pas possible. Où est NTM ? En fait, en 30 secondes, tu peux t'imaginer ce que tu t'es jamais imaginé jusqu'à présent. C'est-à-dire, ça fait pas beaucoup de fois que je le vois, là, ça fait peut-être 2-3 fois, mais je me le suis pas imaginé avec ses enfants dans sa vie de père. Mais ça ne m'arrête pas. C'est très fort tout de suite. Et de mon côté, mais je le sens aussi du sien, même si c'est quelqu'un de plus réservé, ça sent ces choses-là. Il y a quand même quelque chose qui arrive assez vite. Comme on passe beaucoup de temps ensemble, on discute, on parle, et moi j'ai pas de filtre, donc du coup je parle très librement avec lui, et on parle du mariage. Et quand on évoque l'idée du mariage, en fait lui me dit, moi, autant faire un autre enfant, quand j'ai quitté ma femme, je me suis dit que si je rencontrais quelqu'un de plus jeune qui avait pas d'enfant, bah voilà, je referais peut-être un enfant par amour, etc. Autant le mariage, voilà, c'est pas mon truc, machin. Et je lui dis, ah bah là, on va avoir un problème. C'est carrément mon truc. Et s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'histoire. Je sais que moi, c'est comme ça. C'est aussi parce que c'est culturel. C'est-à-dire que moi, je suis quand même issue voilà, d'une double culture. Ma mère est française, mon père est algérien. Chez nous, on se marie, c'est comme ça. Une fille de bonne famille, elle se marie, on l'épouse. Donc quand là, je tombe sur quelqu'un qui me dit, en gros, moi, le mariage, ça y est, en gros, j'ai donné, je ne le referai pas. Je dis, c'est impossible. C'est impossible parce qu'en plus de ça, il a 4 enfants. Mais il y a autre chose, c'est qu'en plus de ça, il est juif. On n'a pas la même religion. Donc moi, je n'ai pas de religion, vu que mes parents, ma mère est catholique et mon père est musulman. Je n'ai pas adopté l'une ou l'autre de ces religions, mais il n'empêche que je grandis dans la famille qui est la mienne et qui est celle de ma mère, et pas du tout exigeante, mais celle de mon père. Ils habitent tous en Algérie, on est hyper famille, on est hyper soudés. C'est impossible de se marier avec un juif, en fait. Ça n'existe pas, et je le sais très bien. Et là, je rencontre Jacques, j'y pense pas. En gros, je crois que quand je rencontre Jacques, de toute façon, cette histoire, elle est tellement vouée à l'échec, les enfants, la religion, les critères qui sont pas les bons, que je ne me pose pas ces questions-là. Je peux pas aller voir mon père et lui dire, alors voilà, je suis quelqu'un de plus âgé, 9 ans plus que moi, 4 enfants d'un premier mariage, et juif, voilà, puis on va pas se marier, c'est bon. On se sépare, mais on se remet ensemble très vite. Et puis on se requitte aussi très vite, parce que, à nouveau, en fait, cette histoire de l'engagement, elle revient. Parce que c'est normal, encore une fois, lui, il est dans ses problématiques, moi dans les miennes. Donc ça fait quand même 2 fois qu'on se sépare, qu'on se remet ensemble. Et ben il me dit, tu sais quoi, si un jour je reviens dans ta vie, ce sera pour t'épouser. Donc franchement, j'ai mal au cœur, j'ai le cœur brisé. Et puis je peux le croiser à tout moment, parce qu'on travaille quand même... dans le même groupe, donc ça rajoute en fait, je suis vraiment pas bien, et puis un jour quand même il revient. Lui il avait un petit peu avancé quand même dans sa tête, et il a fini par me dire, écoute voilà, en fait je sais, en fait c'est toi. Et moi je m'y attendais, mais plus du tout quoi. Et donc quand il me dit ça, mais c'est genre, enfin je me rappelle très bien, hein, j'étais... sur le balcon de mon petit appartement. J'étais au téléphone avec lui et quand il me dit ça, mais c'est un des plus beaux moments de ma vie, quoi. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il me choisit. Lui qui ne voulait pas s'engager, lui qui n'avait pas besoin de ça, en fait. Ça y est, enfin, il pouvait très bien, il avait déjà donné, quoi. Les enfants, c'était fait, tout ça, le mariage, il avait coché ces cases-là. Quand il me dit ça, mais je suis heureuse, quoi, comme jamais. Et donc, ça y est, je vais me marier avec l'homme que j'aime. C'est extraordinaire, à ce moment-là, je suis vraiment dans cette joie. Et après la joie, vient le moment où il faut que j'assume, du coup. Donc ça y est, le rêve, il est sur le point de se réaliser, mais maintenant, il faut que j'aille voir mon père et que je lui dise que je vais me marier et avec qui je vais me marier. Et je sais très bien que quand je vais dire ça à mon père, ça va être la rupture avec mon père, parce que mon père n'acceptera pas ce mariage. Je le sais depuis toujours. À partir du moment où j'allais dire qu'il était juif, de toute façon, ça n'allait pas être possible. On peut pas se marier ensemble. Faut avoir grandi dans cette culture-là pour le comprendre. Et c'est aussi bien les musulmans que les juifs, en fait, c'est des deux côtés. Puisque Jacques, lui aussi, de son côté, sait très bien que quand il va dire ça à son père, du haut de ses 37 ans, de son expérience et de ses 4 enfants, et bien il flippe quand même d'aller voir son père et lui dire voilà, je vais me marier avec quelqu'un, bon, elle s'appelle Yasmine et son père est algérien quoi. Et elle n'est pas juive en fait.
C'est que j'attends un peu d'être vraiment demandée en mariage. Parce que faut être sûr, quoi. Quitte à vraiment être reniée, autant avoir la bague au doigt, quoi, comme on dit. Hein. Donc, j'avais quand même expliqué à Jacques aussi qu'il fallait faire une vraie demande. Dès le départ de cette histoire, de toute façon, j'organise tout. Je veux que tout soit parfait. Donc, forcément, j'organise le voyage. Je trouve un lieu aux Maldives, hyper beau. Je me dis comme ça. S'il demande, ce sera voilà, dans un bocal. Mais après, une fois que j'ai fait ça, je ne sais pas exactement quand, je ne sais pas exactement où. D'ailleurs, je me rappelle que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais il attend quand même, je pense, 4 bons jours, quoi. Je sais pas, est-ce qu'il attendait que le bronzage soit optimal ou je ne sais pas. Enfin, il attend et moi, tous les jours, je me dis, bon, c'est quand en fait? Ça, je ne vais pas être désagréable parce que voilà, mais quand même, j'aimerais bien que ça arrive. Et en fait, il avait donc réservé un restaurant sur la plage. Et puis à un moment donné, voilà, le serveur arrive avec cette boîte et il m'emmène sur le sable. On est le soir, tout est joliment éclairé, etc. Et là, il me demande de l'épouser. Mais en fait, ce qui me touche à ce moment-là, c'est ce qu'il y a dans ses yeux, c'est ce qu'il y a dans sa voix. C'est une émotion incroyable. Il est sincère, il est touchant et il est très amoureux. Et moi aussi, en fait. Je souhaite à tout le monde de vivre ça un jour. D'avoir la personne qu'on aime comme jamais, qui nous regarde dans les yeux et voilà, qui dit je veux que tu sois ma femme. C'est un aboutissement pour moi, c'est le rêve qui se concrétise. Donc je suis fiancée, je rentre à Paris, je suis fiancée. Et donc là, maintenant, c'est le deuxième effet qui se coule, hein. On va tout savoir, il faut aller voir papa, il faut me dire. Donc j'ai été voir mon père. Mais je suis portée par l'amour que je ressens et que Jacques me donne. Et de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il n'y a aucune hésitation. Aucune. Il y a de l'appréhension, parce que je vais regarder mon père dans les yeux, je vais lui dire ça. C'est un affront et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est pas juste un père autoritaire qui veut que sa fille fasse comme lui, il a envie qu'elle fasse. C'est pas ça. Faut comprendre que derrière tout ça, c'est vraiment mon père, il arrive en France dans les années 70, il se marie avec une Française déjà, il se marie pas avec quelqu'un de son pays, donc c'est une autre culture, il a choisi hein, parce qu'il est venu en France et tout, donc voilà, ça lui allait très bien, mais voilà, il épouse une Française de famille bretonne normande avec des traditions qui sont pas les siennes, il a 2 enfants, il essaye de transmettre quelque chose. Quand il rencontre les parents de ma mère qui mangent des huîtres et n'ont jamais mangé de sa vie, le vin à table, tout ça, c'est nouveau pour lui. Mais il s'intègre super bien en France. Il est prof d'ailleurs et tout, donc c'est pas... Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais quand il s'agit de sa fille, bah, dès le départ, avec mon père, il y a des trucs archaïques. Et en l'occurrence, la religion, c'est pas quelque chose qui a été important pour lui de nous transmettre. En revanche, les traditions, oui. Certaines traditions, oui. Et le ressentiment qu'il peut y avoir à ce moment-là, on est dans les années, quand je nais, moi, c'est les années 80, puis après je rentre dans les années 90, le ressentiment entre la communauté juive et la sienne, bah, il est là, quoi. C'est des peuples qui ont mangé assis par terre, à la main, dans le même plat, mais à un moment donné, il y a eu une fracture, quoi. Et encore plus importante en Algérie, parce qu'il y a eu cette guerre d'indépendance, et quand les Juifs sont partis en 62, pour eux, c'était un peu comme une trahison, ils ont choisi la France. Donc, pour lui, de toute façon, bon, les Juifs, ok, on peut être amis. Il reconnaît que on a des atomes crochus, évidemment, parce qu'on a la même culture quelque part, enfin, tu vois. Mais ça rentre pas dans la famille, quoi. Et puis alors, de l'autre côté, chez les Juifs, là, c'est encore autre chose. Parce qu'en fait, on a un autre problème, c'est que la religion juive se transmet par la mère, et que donc Jacques, s'il épouse une non-juive, alors il ne transmettra pas la religion à ses enfants. Double problématique. Maintenant, en ce qui me concerne, je vais voir mon père, et je sais que ça va être la rupture, donc je choisis un moment où on se retrouve chez mon frère. Je lui ai dit, voilà, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, et je vais me marier. Ah ouais? Et alors, ouais, c'est qui? C'est quoi? Bon. Et je lui ai dit, bon, de toute façon, je te le dis, voilà quoi. Et le juif m'a dit, bah, tu savais à quoi t'attendre? Je lui ai dit oui. Et il s'est levé, il est parti. C'était dur sur le moment, mais je m'attendais tellement pas à autre chose, et de toute façon, j'étais tellement blindée, que voilà, je me suis dit, bah, c'est comme ça. Et c'est pas ça qui m'empêchera d'être heureuse. Et à l'époque, en fait, j'arrivais pas à voir que pour lui, il y avait de la souffrance. Je me disais juste, non mais attends, il est pas capable d'être heureux pour moi et de dépasser ses principes à lui pour moi, quoi. Je vis mon bonheur, je prépare mon mariage, je rencontre ses enfants bien évidemment, on trouve un appart, je fais tout pour être la meilleure des compagnes et des belles-mères déjà dès le départ, puisque à partir du moment où moi je rencontre ses enfants, c'est vraiment là aussi pour moi un engagement. Parce que je me dis, on n'entre pas dans la vie d'enfant comme ça pour en sortir. Donc si j'y rentre, c'est que j'y reste. Donc j'assume, voilà. Mais en fait, ces enfants, tout de suite, dès le départ, ils sont trop mignons, ils sont contents d'être avec nous. Moi, je m'occupe beaucoup d'eux. Et voilà, dès le départ, c'est comme ça. C'est comme si chacun, on avait pris le train en route. Et puis voilà, ça y est, on est tous montés dans le train. Et puis, on fait en sorte que ça fonctionne. La seule complication, c'est qu'effectivement, il a quand même une ex-femme avec qui il a passé du temps et pour qui il n'y a pas d'urgence forcément à ce que notre histoire arrive. Donc forcément, il y a de la souffrance de ce côté-là et ça, c'est pas facile à vivre. Voilà. Mais nous, on arrive très bien à se faire à l'idée qu'on n'a pas fait plaisir à nos parents. Parce que donc, moi, je l'ai fait de mon côté. Lui, de son côté, a aussi annoncé la bonne nouvelle à son père. Qui a eu une réaction plus mesurée, différent, mon père et mon beau-père, et que mon beau-père, lui, n'a pas voulu couper avec son fils. En revanche, voilà, il lui a bien précisé qu'il était contre, mais que, voilà, c'était son choix, c'était sa vie. À ce moment-là, on arrive à trouver le bonheur là où il est. C'est-à-dire notre amour à nous, la joie qu'on peut vivre avec les enfants et avec ceux qui veulent bien célébrer notre histoire. Et donc ça dure, on organise notre mariage et là c'est ça va être un grand moment aussi, mais mon père pour moi il vient pas quoi. Donc il y a des conciliabules avec mes oncles qui sont en Algérie, qui lui disent mais je peux pas, elle est pas orpheline, je peux pas la laisser comme ça, etc. Donc au final il va venir quand même à la cérémonie à la mairie, mais c'est compliqué quoi, parce que moi à ce moment-là en fait il vient pour la cérémonie de la mairie, je l'ai pas vu depuis cette annonce de je suis fiancée, donc je pense que ça fait plus d'un an et demi quoi. Et c'est très difficile en fait, parce que je suis entre mon bonheur et je vois que lui, je lui fais de la peine. C'est très dur. Ça n'a rien changé à la situation, il était là ce jour-là, mais après on a fait une cérémonie dans le sud de la France, où là on a fait une cérémonie qui n'avait aucune valeur religieuse, puisqu'encore une fois la religion juive elle est pas... Enfin, si on se convertit pas, on peut pas faire de cérémonie religieuse, mais on a fait un semblant de cérémonie religieuse avec un représentant de la communauté qui soit suffisamment ouvert pour célébrer cette union sans valeur. Voilà. Mais qui, en disant quelques prières quand même, et puis c'était joli, donc voilà. Et puis là, il y avait mes beaux-parents, il y avait ma famille, il y avait la famille de... Voilà, il y avait la famille de Jacques qui était là et à qui quand même j'avais envie de faire plaisir, donc cette cérémonie c'était pour lui, c'était quand même aussi pour eux, et il y avait de la joie, parce que de mon côté à moi, tout le monde était joyeux, de son côté moins, mais heureusement il y avait quand même quelques personnes qui étaient heureuses d'être là, et de son côté à lui, il faut quand même dire que il y a une personne qui dès le début en fait a été un soleil pour moi et une lumière. C'est sa grand-mère. En fait, je pleure parce qu'elle est partie il n'y a pas très longtemps. Et heureusement qu'elle a été là pour moi, parce que son sourire, ce jour-là, je me rappelle, elle m'a prise pour danser après la cérémonie, etc. Et c'est son sourire, ses mots doux, et ben ça m'a aidée à me sentir bien. Voilà, dans cette situation qui était quand même difficile, où je savais qu'il y avait de la peine de mon côté et du sien, bah que cette femme qui soit la matriarche de la famille, qu'elle m'accepte et qu'elle me prenne dans ses bras, et voilà, ça m'a rassurée quoi, j'avais besoin de ça. Et je suis très contente de pouvoir lui rendre hommage aujourd'hui, parce que sans elle, évidemment, l'histoire n'aurait pas été la même. Depuis... J'ai rencontré mamie et jusqu'à son dernier souffle, elle a été ma joie dans cette famille, donc c'est important de le dire. Ce mariage a été un mariage heureux, un vrai moment de joie, et on a fait la fête et on était, comme depuis le début de l'histoire, on a été portés par le bonheur en voulant vraiment occulter tout ce qui allait... Et c'est ça qui est incroyable. Quand on dit l'amour donne des ailes, on pourrait abattre des montagnes, c'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait à ce moment-là. C'est que on a des ailes qui nous permettent de ne pas se laisser décourager, finalement, par ce qui aurait franchement pu nous décourager. C'était mon rêve qui se réalisait, parce que j'ai eu un beau mariage et que j'avais un mari qui, voilà, je le savais, qui était très amoureux de moi. Et vraiment, on est sur des petits nuages. On est en 2012. Et puis en fait après ça, ça va assez vite, hein. Je tombe enceinte assez rapidement. Ça c'est quelque chose qui coule de source en fait pour moi. Je me suis mariée, je vais faire des enfants. Je me rends même pas compte d'ailleurs que j'ai quand même un enfant là où lui en a déjà quatre. Donc on va avoir cinq enfants à gérer, plus nos carrières respectives. Enfin franchement c'est beaucoup quoi. Mais à cette époque-là franchement j'ai une force, je pense que tout est possible, que je peux tout faire. Donc j'entreprends ça et donc je fonce. Mais en réalité, ce projet de bébé, bah, une fois que je suis enceinte, je découvre ce que c'est que la grossesse, la maternité. Je m'étais jamais intéressée à ça avant. Je suis dans l'angoisse. Je réalise en fait ce que je suis en train de faire. Là, on va avoir cet enfant ensemble. Et moi, je suis quand même... J'ai envie que cet enfant... ce soit le fruit de ces deux histoires-là. Donc je me dis, il faut qu'on trouve un prénom qui puisse aller partout. Aussi bien dans ma famille que dans la sienne. Les histoires de religion, j'ai envie d'être neutre, parce que je pense que c'est compliqué. On se met d'accord sur deux prénoms. On a Léo et on a Gabriel. Et en fait, on hésite beaucoup. Je me dis, Léo, ça veut dire le lion en latin, ça se dit en anglais, ça se dit dans toutes les langues, je trouve que c'est pratique, c'est court. Et Gabriel, bah, c'est les trois religions, parce que il y a Gabriel dans la religion juive, dans la religion catholique, et Djibril dans le Coran, franchement, ça peut passer. Mais je sais pas, j'hésite. Et un jour, j'appelle mon oncle, dont je suis très proche, mon oncle Djeba, en Algérie. À un moment donné, je lui dis, bon tonton, j'hésite et tout. J'hésite entre deux prénoms, entre Léo, donc tu vois, c'est le lion en latin, tout ça, c'est international. Et Gabriel, c'est l'archange, quoi, c'est l'ange dans les trois religions. Et là, mon oncle, il me dit, ah, te casse pas la tête, va. Dans la vie, vaut mieux être un lion qu'un ange. Ok, tonton. Alors, ça va être Léo. Dis, voilà. Il m'a convaincu tout de suite. C'est marrant. Mon père, il sait que je suis enceinte. D'ailleurs, Jacques, à un moment donné, fait la démarche de voir mon père. Il demande à le rencontrer et il savait que j'étais enceinte parce que mon frère lui avait dit. Ça, c'était sûr, mais Jacques, quand même, lui a dit, voilà, votre fille est enceinte, on va avoir un enfant, c'est dommage, voilà, ce serait quand même le moment, voilà, de renouer, etc. Et mon père lui a dit, mais en fait, moi, j'ai pas de problème avec vous. Vous êtes certainement quelqu'un de très bien. Moi, j'ai un problème avec ma fille. Ma fille, elle a désobéi. Et elle sait. Donc, voilà, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Donc, il est au courant que je suis enceinte. J'accouche, ma mère est là, mon frère est là, mon oncle vient avec sa femme qui me ramène de la semoule, elle me dit chez nous c'est comme ça, on mange de la semoule sucrée après la plus fort, je dis mais j'en veux pas de la semoule, bon, bref, tout le monde vient quoi, les beaux enfants viennent à la clinique, mon beau-père et ma belle-mère montent de Marseille, pour moi c'est quand même un geste, donc je me dis c'est cool quoi. Et je crois que c'est le troisième jour où je suis à la maternité, j'avais laissé la porte ouverte de la chambre, et là, je vois débarquer mon père. J'ai cru que c'était un fantôme. Je crois que j'allais m'évanouir. Je me dis, il y a mon père qui est là. Et en fait, c'est comme si... Et je suis là, mais je suis pas là, quoi. C'est comme si j'étais au-dessus de la situation et je la regardais devant. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Encore une fois, je me dis, c'est... Je sais à quel point c'est compliqué pour lui, là, ce qu'il est en train de faire. Je suis gênée, je m'en veux, tout. Ça a été le premier pas. Et finalement, mon fils... devient à ce moment-là le petit lien qui va nous réunir petit à petit. Parce que on se parle toujours pas, mais à partir du moment où Léo naît, il cherche quand même à nous voir. Et puis après, il se trouve que moi, j'ai donc un enfant qui grandit avec ses frères une fois sur deux, machin. Et j'ai une envie qui grandit en moi d'avoir un deuxième enfant. Et je dis à Jacques, ben voilà, j'aimerais avoir un deuxième enfant, même si je sais que toi, sixième enfant, t'en as déjà cinq. Mais moi, voilà, je vois que Léo se retrouve seul. Enfin, il y a quand même un vide quand tes enfants partent, en fait, il est seul. Tes enfants, ils sont quatre, quoi qu'il arrive, on sait pas de quoi va être faite la vie. Et ils s'entendent peut-être très bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe demain si moi je suis plus là. Ben en fait, il a personne avec qui partager ça, c'est pas avec tes enfants qu'il va le partager. Tes enfants sont juifs, lui il n'est pas. Lui, il est algérien, par moi, tes enfants le sont pas. Donc, en fait, j'aimerais que Léo puisse partager ça avec quelqu'un. Mais je comprends que ce soit pour toi pas prévu quoi. Parce que c'était pas prévu, moi j'ai toujours voulu qu'un seul enfant en fait. Même avant de le rencontrer, j'ai toujours voulu qu'un seul enfant. Donc même moi, pour moi c'était très nouveau et de m'avouer ça c'était très bizarre. Je lui ai dit ça et puis quelques temps après il m'a dit bon bah ok faisons-le quoi. Donc encore une fois une preuve de son amour pour moi quoi. Et on a fait cet enfant et donc j'ai eu cette grossesse qui s'est quand même beaucoup mieux passée, qui était plus cool et tout ça. Et en fait quand Noé est né, et ben, je crois que mon père, c'est une des premières personnes qui l'a vu. Et d'ailleurs, j'ai accouché en plein été, caniculaire, il faisait 37 degrés, etc. Et j'avais pas pris les bons habits, parce que on dit toujours qu'il faut les couvrir beaucoup, etc. Et donc là, franchement, il faisait très chaud. Et finalement, les premiers vêtements que va porter Noé sont les vêtements que va porter mon père. Et ce qui finalement est assez révélateur de ce qui va se passer, puisque Noé, ce deuxième enfant, et ben en fait c'est vraiment ce qui va ramener définitivement mon père près de nous. Et donc mon père il est là, il vient assez régulièrement. Et en fait il y a quelque chose sur lequel on était raccord Jacques et moi sur une des pratiques des différentes religions, c'est la circoncision. Les garçons sont circoncis chez les juifs comme chez les musulmans, sauf qu'ils ne sont pas normalement mais au même âge. Sauf que j'avais pas invité mon père à la cérémonie qu'organise ma belle famille. Donc j'avais dit à Jacques, maintenant que ça va mieux en fait avec mon père, ben j'aimerais qu'on organise en Algérie l'été prochain un aîné. Les garçons auront un peu grandi, mais voilà, on va marquer le fait qu'ils ont été circoncis. Et on pourra faire cette fête ensemble avec mon père qui va du coup présenter ses petits-fils puisque on n'avait jamais vraiment été en Algérie du coup. Et c'est une des meilleures choses qu'on ait faites parce que en réalité j'ai vu mon père du coup prendre plaisir à organiser. On n'a pas pu organiser de aîné pour notre mariage parce que les conditions elles n'étaient pas réunies. J'avais envie de le faire. J'avais envie de faire quelque chose qui allait dans son sens à lui, mais il n'était pas prêt. Tandis que là, en fait, à ce moment-là, quand je lui dis, on va aller en Algérie et j'aimerais bien qu'on fasse un aîné, il a pris les choses en main. Il a organisé une fête. Il a réuni toute ma famille. Pourtant, il y en a qui habitent en Kabylie, d'autres à Alger. C'est pas la même région et tout ça. C'est lui qui a eu la salle, etc. Et puis, on a été ensemble acheter les costumes des enfants. Et ben voilà. Il a eu cette fierté de présenter ses petits-enfants. Jacques était là et tout le monde était content, mon frère était là. Et ça, pour moi, ça a quand même été un acte fondateur dans notre relation et l'apaisement, quoi. Voilà, ça y est, enfin, on arrive à faire des choses ensemble et on peut être un peu unis. Donc, c'est vraiment à partir de là, de toute façon, que je pense que voilà, mon père s'est senti considéré, peut-être. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces petites choses-là qui nous ont amenés à la circoncision d'un côté, et avec mon beau-père, ça a pu être d'autres actes, mais aujourd'hui, on est dans la joie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon père, je pense qu'il a conscience de la valeur de son gendre. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Et au bout de 13 ans, il regarde les matchs de l'OM ensemble avec mes enfants. Ils sont tous fans de l'OM. C'est un truc de fou, quoi. J'aurais jamais cru que ça arriverait. Mais de toute façon, je pense que c'est aussi pour ça. Je pense que j'ai aimé Jacques. Je pense qu'ils se ressemblent quelque part. Il y a quelque chose de commun entre eux. Mais ils ont réussi, en tout cas, à s'apprivoiser. Moi, de mon côté, avec ma belle famille, ça a été un peu différent parce que j'ai pas le tempérament de Jacques. Mais il se trouve quand même qu'aujourd'hui, mon beau-père est capable de me dire « je t'aime, je suis tellement heureux de t'avoir comme belle-fille ». Je pense qu'il est vraiment heureux qu'on soit ensemble et qu'on vive tous ensemble. C'est vrai que ça rend la relation plus forte et qu'aujourd'hui, quand on serre dans les bras avec mon beau-père, bah ouais, c'est fort. Parce que tous les gens qui sont autour de nous, c'est une grande famille, hein. Bah, à chaque fête, quand on est ensemble et qu'on se prend comme ça, et bah, tout le monde est admiratif de ce qu'on a tous traversé. Parce que ce qu'on a vécu, Jacques et moi, c'est toute une famille qui l'a vécu. Et la peine, elle était de tous les côtés. Donc c'est une réussite collective. Certes, c'est nous qui l'avons voulu, c'est nous qui avons tout fait pour parce que c'était à nous de faire. Mais aujourd'hui, bah, finalement, on en ressort tous grandis, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que après tout ça, on est comme tout le monde, hein, y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, et il y a des moments où on en a ras-le-bol, hein, l'un de l'autre. Mais franchement, souvent, je me dis, c'est impossible, en fait, on ne peut pas se séparer, parce que, enfin, on va pas après tout ça. Genre, on va pas se séparer pour une bêtise, alors que on est restés ensemble contre vents et marées. Parce que, on a vécu tout ça ensemble, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Et c'est vraiment ça, c'est l'un pour l'autre, parce qu'on s'est choisi, c'est vraiment un choix qu'on a fait, c'est pas une évidence, c'était pas facile, et l'un avec l'autre, parce que sinon ça aurait pas plu, quoi. Hein. Si il y avait un qui avait eu moins de volonté que l'autre, voilà, chacun à sa manière. Moi je suis un bulldozer, mais lui aussi, le fait que ce soit la force tranquille, bah du coup ça a joué. Et aujourd'hui je suis tout à fait capable de rembobiner la bande et de comprendre ce qui m'a plu chez lui. Tous les critères que je cherchais avant, en fait, c'était tout simplement pas les bons parce que c'était... sincèrement, je pense que c'était les critères de mon meilleur pote, quoi. Tandis que on vit pas forcément avec son meilleur pote avec qui on se marre. Voilà, lui, aujourd'hui, je sais que on est très différents l'un de l'autre et donc justement, en fait, on était dans des extrêmes chacun. Et on s'est ramené un petit peu au centre. Donc aujourd'hui, on est toujours ensemble et on a toujours envie d'être ensemble. Et on a beaucoup de choses encore à vivre ensemble. Puisque, ben voilà, ces enfants ont grandi, c'est des ados, c'est des adultes pour certains. Nos enfants à nous aussi. Et ce que je peux constater, en tout cas tous les jours, c'est la richesse. Et ça, je le vois dans les yeux de mes enfants, dans les réflexions de mes enfants, dans la vie de mes enfants. C'est la richesse que cette double culture a apportée à cette famille. Mes enfants, aujourd'hui... Voilà, ils sont à l'aise partout. Ils sont à l'aise dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée. Et c'est ce que je veux. Ils sont à l'aise pieds nus en Afrique, au Sénégal, dans une maison. Et c'est ce qu'on aime. Nous, on aime les gens, quels qu'ils soient. On se fiche de savoir de quelle religion ils sont, etc. Et en fait, c'est ce que nous ont transmis nos parents. Puisque nos parents sont des gens très ouverts. Mon père, c'est quelqu'un qui est parti d'Algérie pour venir vivre en France, qui a embrassé une nouvelle culture, etc. Donc, qui a été vers l'autre. Donc, quelque part, les chiens font pas des chats. Mon beau-père, c'est pareil. Ma belle-mère, ma mère. Ces quatre personnes, là, qui, de toute façon, avaient ça en elles. Et nous, on l'avait en nous. Et donc, c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Voilà.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire d'amour extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande, des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.